Merci de me rejoindre pour ce deuxième épisode d'Opinion chrétienne. Je suis Sonia, je serai votre oratrice. Il y a quelques jours, je réfléchissais à ce dont j'allais partager avec vous et je suis tombée sur le thème de l'avortement en regardant le journal télévisé le 28 septembre. Donc le 28 septembre, j'ai appris que le monde entier célébrait la Journée internationale de l'avortement sécurisé. Premièrement, j'étais très surprise parce que je n'avais aucune idée que cette journée existait. Je ne savais pas que le monde célébrait l'avortement. Et deuxièmement, je me suis dit, l'avortement est un sujet très intéressant et un sujet qui mérite beaucoup d'attention et qui doit être traité, qui doit être discuté par tout le monde et surtout par nous les chrétiens. Et je me suis demandé comment nous les chrétiens devons aborder ce sujet, comment nous les chrétiens devons marquer notre opinion en fait vis-à-vis de l'avortement. Et donc, j'ai fait quelques recherches et pendant les recherches, j'ai trouvé un article qui a été écrit par un pasteur sud-africain qui s'appelle Martin Morrison, que j'ai trouvé sur le site de tgcafrica.com. Et dans cet article, le pasteur traite sur la question de l'avortement d'un point de vue biblique. Pour commencer, j'aimerais vous dire que personnellement, pendant longtemps, je dirais à partir de la première fois que j'ai entendu parler de l'avortement, c'est-à-dire j'avais à peu près 15 ans, jusqu'à à peu près, on va dire, 24 ans, 25 ans, je pensais que l'avortement était quelque chose d'anodin. Je pensais que l'avortement était quelque chose de très naturel, de très normal à faire, comme celui-ci est présenté dans la société. En effet, la première fois qu'on entend parler de la société, pour la plupart de nous, d'entre nous, c'est lors des journées de sensibilisation à la sexualité, des femmes, des hommes, souvent à l'école. On a souvent des intervenants qui viennent nous parler de la sexualité et c'est là qu'ils introduisent le sujet de l'avortement. Et l'avortement est présenté de façon très normale. On a l'impression que l'avortement n'est même pas un crime, n'est même pas un meurtre. On a juste l'impression que l'avortement, c'est juste une formalité, comme une autre, comme manger, comme faire ses courses. Et donc, je n'avais pas vraiment une explication sur l'avortement. La seule explication que j'avais, c'était juste que, bah, écoute, certaines femmes ont recours à l'avortement parce qu'elles veulent se débarrasser de quelque chose en elles, et puis c'est tout à fait normal. J'aimerais dire que tuer un bébé de façon luxueuse, et tuer un bébé avec un pistolet, avec un couteau, reste tuer un bébé, reste tuer un enfant. J'aimerais dire tuer un fœtus avec une pilule reste tuer un bébé, un enfant. Donc, ça, c'est mon point. Néanmoins, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je me suis inspirée de l'article du pasteur Morrison pour vous parler aujourd'hui. Et le pasteur Morrison commence par dire, à se demander, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'avortement? Et il se trouve que la Bible nous dit très peu sur l'avortement, que dans la Bible, on ne retrouve pas une histoire où une femme ou des femmes ont recours à l'avortement. Néanmoins, il note que la Bible nous parle de la vie. La Bible nous parle de façon détaillée de la vie humaine. Et donc, il nous emmène dans le chapitre de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse au verset 27 qui nous dit: Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans ce passage, nous voyons que l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, que l'homme et la femme sont égaux et que la valeur de leur vie est infinie. Je m'explique. Lorsque Dieu dit qu'il nous crée à son image, à sa ressemblance, ce n'est pas une ressemblance physique. Dieu n'a pas des pieds, n'a pas des jambes, n'a pas une bouche comme nous, mais c'est une ressemblance spirituelle, dans le sens où le caractère de notre vie est infini, notre vie est infinie comme Dieu est infini. Et c'est dans ce sens-là que nous avons une ressemblance avec notre Créateur. Ensuite, le pasteur nous emmène dans le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 7, qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc ici, nous voyons que Dieu nous a créés à partir de la terre, de la poussière, il nous a formés, il a formé ce corps, et ensuite, pour donner vie à ce corps, il lui a soufflé un souffle de vie à l'intérieur. Et le pasteur Morrison souligne, et nous devons tous être d'accord, et je suis d'accord, de dire qu'effectivement, dans ce souffle de vie, il y a l'âme et l'esprit qui vit en nous. Donc Dieu nous insuffle une âme et un esprit pour nous donner la vie. Contrairement aux animaux, nous sommes les seules créatures dans lesquelles Dieu insuffla ce souffle de vie, dans lesquelles Dieu insuffla un esprit et une âme. C'est pour cela que nous pouvons dire que la vie des hommes, comme celle de Dieu, a une valeur infinie, a une valeur éternelle. Parce qu'effectivement, ce qui perdure en nous, ce qui est éternel en nous, est justement l'esprit et l'âme. Ensuite, le pasteur Morrison soulève la vérité qui dit que Dieu nous connaissait bien avant notre naissance, bien avant la fondation du monde. Et pour illustrer cette vérité, nous allons aller lire dans Psaume 139, le verset 6, le verset 13 et le verset 15 à 16. Le verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. En effet, avec l'ouverture du verset 6, je suis d'accord de dire que cette vérité, de dire que Dieu nous connaissait bien avant notre naissance, bien avant la fondation du monde, est complètement aberrante par rapport à la sagesse humaine, purement humaine. On ne peut pas concevoir, nous les humains, qu'il y avait quelque chose qui nous connaissait avant même que nous puissions arriver dans ce monde. Mais oui, Dieu nous le dit. Que c'est une science merveilleuse. Dieu nous dit ici que c'est une science trop élevée pour que nous puissions la saisir. Et je suis tout à fait d'accord, mais néanmoins, c'est une vérité. Dieu nous connaissait. Ensuite, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, c'est Dieu qui travaille au développement de mes membres, qui travaille au développement de mon cerveau. C'est lui qui est là en train de me former, de former mon corps. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Pendant ma conception, c'est-à-dire quand j'ai été conçue, Dieu était déjà là. Il me voyait, il me connaissait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Lorsque je deviens un fœtus, une masse informe, lorsque j'arrive dans le ventre de ma mère, j'ai été conçue, j'arrive dans le ventre de ma mère, je suis une, pour certaines personnes, je suis une masse de cellules, je suis une masse informe, mais je suis déjà, Dieu me connaît. Et ensuite, les jours qui m'étaient destinés à et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc avant même que je naisse, avant même que j'arrive dans ce monde, Dieu connaissait déjà le nombre de jours que j'allais vivre sur cette terre. Et dans ce passage, la Bible nous montre tout simplement la continuité qui existe entre le bébé non né et le bébé né. Effectivement, Dieu nous connaît avant que nous ayons été conçus, avant que nous ayons été conçus. Pendant la conception, lorsque nous arrivons en forme de fœtus dans le ventre de notre mère, il nous forme et nous arrivons dans ce monde, nous naissons. Et Dieu nous connaît pendant tous ces stades. Donc il y a un lien indissociable entre tous ces différents stades de la vie et Dieu est présent. Ça veut dire que nous sommes déjà vie, nous existons déjà et nous sommes des créatures précieuses aux yeux de Dieu. Pour la Bible, ici, on le voit bien que le bébé non-né mange, respire et vit. Le bébé non-né est donc une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour nous, les chrétiens qui comprenons cette vérité, nous sommes vraiment attristés lorsque la société nie le fait qu'un bébé non-né soit un enfant et soit une personne précieuse aux yeux de Dieu. Le bébé non-né est sûrement la personne la moins protégée dans notre société. Le bébé non-né est sûrement la personne la plus abusée dans notre société. Et pour les chrétiens qui connaissent justement l'importance de la vie humaine faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons un devoir d'engagement important envers ces vies, envers ces fœtus, ces bébés tués. Nous devons vraiment nous battre pour que ces bébés aient la possibilité de naître et de connaître personnellement Jésus-Christ. Ensuite, dans un troisième temps, le pasteur soulève quelques objections qui reviennent souvent à la vérité chrétienne par rapport à l'avortement. La première est celle qui dit, est-ce que le bébé non-né peut être considéré comme une personne? Donc, comme nous l'avons vu dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, et dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, et aussi dans le livre de Psaume 139, nous disons que le bébé non-né est une personne. Oui, nous disons que le fœtus, que cette masse de cellules informe est bel et bien une vie à part entière. Et aussi, nous avons l'image du bébé qui est dans le ventre de sa mère, qui est relié par ce cordon ombilical. Et le cordon ombilical entre le bébé et la mère vient justement montrer la distinction entre ces deux individus. La mère est une personne à part entière et le bébé aussi est une personne distincte. Donc oui, le bébé non-né est une personne. La deuxième objection est celle qui dit, est-ce que la femme a tous les droits sur son corps? La question est tout à fait légitime parce qu'aujourd'hui dans le monde, beaucoup de femmes sont abusées dans leur corps et l'objection est vraie. La femme dispose de tous les droits sur son corps. Mais le pasteur Morrison souligne le fait que à l'intérieur aussi de du corps de cette femme qui est important, il y a un autre petit corps qui est aussi important. Il se demande, est-ce que ce petit corps-là, lui aussi, n'aurait-il pas droit d'avoir le droit d'être important, d'avoir le droit à la vie? Ensuite, la troisième objection est celle qui dit, je suis contre l'avortement, mais je fais une exception sur les cas de viol. On est tous d'accord, chrétiens, non chrétiens, que le viol est probablement l'acte le plus atroce qui peut être commis sur le corps d'une femme. C'est un acte horrible, un acte condamnable. Néanmoins, on doit se poser la question de savoir si, en ayant recours à l'avortement, nous ne punissons pas les deux victimes, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Parce que dans cette situation-là, tous les deux, la mère et l'enfant, sont des innocents. Et en ayant recours à l'avortement, nous n'anéantissons pas le traumatisme de la mère. Nous n'enlevons pas l'acte de viol qu'elle a subi. Mais au contraire, nous lui rajoutons un traumatisme. Parce que, en effet, le bébé est une personne. Et peu importe la façon dont ce bébé a été conçu, il n'empêche que ce bébé reste une vie créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Enfin, pour terminer, le pasteur nous encourage à faire preuve de compassion et non de jugement. Nous, les chrétiens, nous devons faire preuve de grande compassion et de soutien pour ces jeunes filles qui tombent enceintes dans l'église ou dans notre entourage. Nous ne devons pas les juger, mais plutôt les aimer et leur manifester la vérité de Christ, l'amour de Christ. La plupart du temps, ces filles sont dans des situations difficiles et elles ont besoin d'être protégées physiquement, mais surtout émotionnellement et surtout spirituellement. Et là est notre devoir de pouvoir communiquer les vraies vérités à ces femmes et toujours dans l'amour. Effectivement, il y a aussi des alternatives à l'avortement. Si une jeune fille ne veut pas garder son enfant, celle-ci peut avoir recours à l'adoption. l'enfant peut être adopté dans le cercle familial direct ou bien par des organismes qui s'occupent de l'adoption. Nous, les chrétiens, nous devons encourager ces initiatives plutôt que d'encourager le recours à l'avortement. Toujours dans cette même attitude d'amour, nous devons continuer à manifester autant de l'amour pour ces filles qui refusent d'avorter et autant pour celles qui ont recours à l'avortement. La plupart du temps, ce ne sont pas des décisions que ces femmes-là prennent sur un coup de tête, dans la plupart du temps. Et lorsque nous faisons face à de telles situations, nous devons vraiment nous assurer que nous partageons vraiment la vérité de Christ, comme nous l'avons vu dans la Genèse et dans le psaume ici. Enfin, le pasteur Morrison souligne que nous chrétiens, et je suis d'accord avec lui, que nous chrétiens croyons que tous les êtres humains confondus, les jeunes, les personnes âgées, les personnes nées avec des handicaps, les personnes avec des déformations ou avec des maladies génétiques, les personnes nées aveugles, les personnes sourdes et muettes, sont toutes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu et sont des vies précieuses aux yeux de Dieu. Et nous chrétiens devons vraiment travailler et faire en sorte que ces vies soient protégées, que ces vies soient maintenues pour que ces vies puissent naître et le connaître personnellement. Je terminerai par dire à mes frères et sœurs chrétiens et à tous les auditeurs que pour comprendre le problème de l'avortement, pour comprendre que l'avortement est un crime, il faut vraiment revenir à la définition de la vie telle que le Créateur l'entend. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Non, la vie physique, non notre apparence physique, mais notre vie spirituelle, parce que c'est ça qui est réellement la vie, c'est ça qui nous rend semblables à Dieu. Revenons à cette définition, et lorsque nous partageons cette vérité, basons-nous sur la définition de la vie pour pouvoir faire comprendre aux personnes qui sont peut-être en faveur de l'avortement que cette pratique est peut-être quelque chose d'atroce et peut-être quelque chose auquel ils devraient se remettre en question. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois.